Seigneur notre Dieu, nous nous remettons entre tes mains afin que ton esprit nous guide, nous conduise et que nous réalisions le pourquoi de cette prédication et que personne ne soit outré, choqué, mais que chacun se pose les bonnes questions afin de trouver les bonnes réponses. Merci Seigneur de ne pas nous traiter comme des enfants, mais de nous traiter comme des adultes et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette confiance que tu nous fais. Et je te prie que tu nous éclaires par ton Saint-Esprit et que aucune puissance d'égarement, de démon ou n'importe quelle autre entité puisse venir se mettre en travers et troubler quelqu'un outre mesure. Je te demande, mon Dieu, que chacun puisse se mettre devant toi et chercher ta face et comprendre le pourquoi de cette prédication et de celles qui vont suivre encore. Merci, Jésus. Amen. Amen. Oui, parce que ce soir, c'est la première étude dont je vous ai parlé dimanche passé. C'est la première étude, je ne sais pas combien on va en faire dans ce sens-là, pour en arriver là où je veux en venir, mais c'est la première. Donc, je pense qu'il va falloir que tous ceux qui viennent sur Internet réécoute ensuite cette prédication et puis prenne des notes. Ici, pour vous, j'ai photocopié les textes afin que vous puissiez les avoir. Ça sera plus facile pour vous. Mais pour ceux qui sont sur Internet, je vous demanderai de réécouter ce message, de prendre des notes, ensuite d'aller voir dans vos Bibles si ce que je vous dis est vrai. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut arrêter d'être comme des petits gamins, des petits bébés qui gobent tout, qui croient tout. Il faut vérifier dans les Écritures tout le temps. Et je vais aller droit au but. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a jamais dit que nous devions avoir un livre que nous appellerions la parole de Dieu. Ça, c'est dit. Je sais que c'est difficile à avaler pour beaucoup, mais c'est comme ça. La parole de Dieu a été faite chair. La parole de Dieu est divine, parfaite, sans aucun défaut. Elle est infaillible, elle est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il est la parole de Dieu faite chair. Alors, peut-on en dire autant du livre, de la Bible ? Que nous appelons pompeusement la parole de Dieu. Les chrétiens, en général, répondent « Oui, c'est la parole de Dieu. » Mais ce « oui », il vient d'un cœur sincère, de cœur sincère. Mais très souvent, il vient de cœur de gens un peu, ignorants. Ignorants. Des gens qui n'étudient pas vraiment. Mon but, c'est pas de vous troubler, mais malheureusement, je sais que certains vont être troublés. Et ma prière, voilà pourquoi je prie, pour que Dieu vous aide à comprendre, mais que vous aussi, vous fassiez un effort. Il faut que vous fassiez un effort pour comprendre pourquoi je vous dis toutes ces choses-là et pourquoi vous allez entendre les choses que je vous dis ce soir. Ça va peut-être vous choquer, mais tant pis. Il faut voir ces choses réellement en face. Ma prière est donc que Dieu dirige vos cœurs vers Jésus, qui est la parole infaillible de Dieu, et que vous cessiez, si vous l'êtes, d'être idolâtre. La Bible, qui n'est pas parfaite, beaucoup de gens l'idolâtrent. Et nous allons commencer tout de suite dans cette étude à nous en rendre compte que nous ne pouvons pas idolâtrer la parole de Dieu et dire qu'elle est parfaite, elle est infaillible. Je ne vais pas beaucoup vous parler de l'Ancien Testament, mais si ça vous intéresse, je vais pouvoir vous parler de l'Ancien Testament. Si vous voulez, écrivez-moi sur Révélation Bible et je vous donnerai des dizaines de textes dans l'Ancien Testament. Alors, ce soir, je vais vous en donner deux ou trois, c'est tout. Mais je vais me borner surtout ce soir à parcourir le Nouveau Testament et vous démontrer quelques erreurs humaines qui se sont glissées dans ce livre que j'aime, dont je ne me sépare pas depuis 1968 que je suis converti, j'aime ce livre, mais il ne peut pas être mis, ce livre, au même niveau d'infaillibilité que Jésus. Jésus est Dieu. Le livre n'est pas Dieu. Il n'est pas divin. La Bible n'est pas divine. Alors, on va voir ça d'un peu plus près. Déjà, dans Matthieu 1, il y a beaucoup de passages. Je vous en citer juste un ou deux. Dans Matthieu chapitre 1, verset 16, on rencontre une erreur. Là, on lit que le papa de Joseph se nommait Jacob. Et si vous prenez Luc 3, 23, il nous est dit que le papa de Joseph se nommait Élie. Alors, il s'appelait comment ? Élie ou Jacob ? Lequel dit la vérité ? Dans Matthieu 1, 12, qui est le fils de Salathiel ? Dans Matthieu 1, 12, il nous est dit qu'il s'appelle Jéconias. Or, dans Luc 3, 27, il nous est dit qu'il s'appelle Néri. Il faudrait savoir. Dans Matthieu 1, 8, Matthieu 1, 8 nous dit que le père d'Ozias se nommait Jotham. Alors que 2 Chroniques 26, 1 nous dit que son nom était Amathias. Matthieu 1, 17 nous affirme que l'exil, que depuis l'exil de Babylone jusqu'à Jésus, il y a eu 14 générations. Vous allez regarder, et si vous allez soigneusement compter, depuis l'exil de Babylone jusqu'à Jésus, c'est dans Matthieu 1, 12 à 16, ben vous allez voir, moi j'en trouve que 13, hein. Je ne trouve pas 14. Matthieu écrit que, chronologiquement, Jésus a guéri d'abord le lépreux, ensuite l'esclave du centenier, et ensuite la belle-mère de Pierre. Vous trouvez ça dans Matthieu 8, 2, 4, pour le lépreux. Matthieu 8, 5, 13 pour l'esclave du centenier, et Matthieu 8, 14, 15 pour la belle-mère de Pierre. Or, Marc nous raconte ces trois faits, mais dans un ordre chronologique différent. Il nous dit que d'abord Jésus a guéri la belle-mère, Marc 4, 38, 39, ensuite le lépreux, Marc 5, 12, 14, et ensuite l'esclave du centenier, Marc 7, 1 à 10. Jean, chapitre 1, verset 21. Jean-Baptiste nie catégoriquement être Élie. Et dans Matthieu 11, 13, 14, Jésus affirme que Jean était Élie. Je vous avais déjà prêché ça là-dessus. Dans Actes 2, 25, Luc, qui écrit le livre des Actes des Apôtres, nous cite le psaume 16. Alors vous allez lire dans le psaume 16, ces deux textes ne sont pas identiques. Il aurait quand même pu le citer tel qu'il était écrit. Ben non. La même chose avec Paul qui cite Ésaïe 64. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 2, 9. Le texte n'est pas identique. Paul y cite d'une façon très fantaisiste les Écritures. Dans Matthieu 20, 29 à 30, à la sortie de Jéricho, Matthieu raconte l'histoire de deux aveugles. Mais quand vous lisez Marc 10, 46, la même histoire, à la sortie de Jéricho, il n'y a plus qu'un aveugle. Il n'y en a pas deux, il y en a un. La même chose avec les fous. Dans Matthieu 21, 28, il y a deux fous. Alors que dans Marc 5, 2, qui raconte la même histoire, il n'y en a qu'un. Vous voyez, quand je vous dis, il faut arrêter de dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a qu'une parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus est infaillible, la Bible ne l'est pas. Il y a des erreurs humaines qui sont glissées dedans. Dans Matthieu 21, 1, 2, Jésus ordonne qu'on lui amène une ânesse et son petit. Alors que dans Marc 11, 1, 2, il nous est dit que Jésus ne demande que le petit. Dans Jean 5, 31 et Jean 8, 14, Jésus nous affirme deux choses divergentes au sujet de son témoignage. Vous lirez, vous direz, regardez. Dans Matthieu 15, 22, il est question d'une femme cananéenne qui avait une fille possédée. Vous vous rappelez de cette histoire? Mais Marc 16, 24, 26 nous dit que cette femme est grecque et qu'elle est d'origine syro-phénicienne. C'est plus une cananéenne. Hein. Dans Matthieu 26, 20 à 24, Jésus affirme que c'est celui qui met la main avec lui dans le plat qui va le livrer. Alors que dans Jean 13, 21, 26, il dit que c'est celui qui, à qui il donnera le morceau de pain trempé. Deux choses différentes. Au jardin de Gethsémané, Matthieu 26, 47, 50 nous raconte que pour identifier Jésus à ceux qui le livraient, Judas est venu et l'a embrassé. Vous vous rappelez tous le baiser de Judas, hein, on sait ce que ça veut dire. Mais ce moment-là, quand vous lisez Jean 18, 1, 8, il n'y a plus de baiser. C'est Jésus qui s'avance vers la troupe, qui est venu pour l'arrêter et qui dit « Qui cherchez-vous ? » Pas de baiser de Judas. Selon Jean 19, 16, 17, Jésus porte sa croix jusqu'au bout. Alors que dans Luc 23, 26, 27, il nous est dit que Jésus marchait devant Simon de Cyrène qui, lui, portait la croix jusqu'au bout. Il a porté la croix de Jésus jusqu'au bout. Jésus ne l'a pas portée jusqu'au calvaire. Dans Jean 19, 14, 15, à la sixième heure, Jésus est chez Pilate. Alors que dans Luc 23, 44, 46, à la sixième heure, Jésus est sur la croix. Selon Matthieu 27, 44, les deux brigands sont sur la croix avec Jésus. Il y en a deux qui l'insultent. Dans Matthieu 27, 44, les deux brigands l'insultent. Alors que dans Luc 23, 39, 43, il nous est dit qu'un seul l'insultait et que l'autre lui disait à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Dans Actes 7, 14, il nous est dit que les membres de la famille de Jacob qui sont venus en Égypte étaient 75. Alors que Genèse 46, 27 nous dit qu'ils étaient 70. Allons Luc, t'as pas lu la Genèse? Ou tu t'es trompé? Ou c'est qui s'est trompé? La Genèse? Maintenant, qu'est-ce que Judas a fait avec l'argent qu'il a reçu pour trahir Jésus? Vous vous en souvenez? Matthieu 27, 5 affirme qu'il a jeté les pièces dans le temple et qu'il est allé se pendre et que les religieux ont acheté un champ avec l'argent. Vous vous rappelez de ça? Or, dans Actes 1, 18, il nous est dit que Judas a acheté un champ avec le salaire du crime. Puis qu'il est tombé en avant, qu'il s'est ouvert en deux, qu'il est mort comme ça. Maintenant, quels étaient les mots exacts qui étaient écrits sur la croix? Vous savez, ils ont mis un panneau sur la croix. Alors, vous lisez Matthieu 27, 37. Vous comparez avec Marc 15, 26. Vous comparez avec Luc 23, 38. Et vous comparez avec Jean 19, 19. Il n'y en a pas un qui dit la même chose. C'est approximativement pareil, mais ce n'est pas la même chose. Bon, dans l'Ancien Testament, qui a tué Goliath? Même les enfants le savent, hein, on le chante. Ben dans 1 Samuel 17, 23, 50, c'est David. Hein? Mais dans 2 Samuel 21, 19, c'est un certain Elanam. Ah ben peut-être c'est un autre Goliath. Hein? Peut-être qu'il y avait deux Goliaths. Peut-être c'est possible, hein? Ce moment-là, qui a tué Saül? Saül, il nous est dit qu'il a pris sa propre épée et s'est jeté sur elle et que c'est ainsi qu'il est mort. 1 Samuel 31, 4, 6. Dominique, il fait signe de la tête que c'est vrai. Mais 2 Samuel 1, 1 à 16 nous dit que c'est un Amalécite qui a tué Saül. Quels ont été les derniers mots de Jésus sur la croix? Selon Luc 23, 46, Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Selon Jean 19, 30, il a dit, tout est accompli. Ben, les dernières paroles. Il faudrait quand même plus se mettre d'accord, les apôtres. Qu'est-ce que le centenier a dit en voyant Jésus mourir? Selon Luc 23, 47, il a dit, certainement, cet homme était juste. Mais selon Marc 15, 39, il a dit, assurément, cet homme était le fils de Dieu. Oula! Alors les pasteurs, ils prennent un texte ou l'autre pour pouvoir prêcher. Sur le chemin de Damas, Paul a vu la lumière et il a entendu la voix. Est-ce que ceux qui étaient avec lui ont entendu la voix? Selon Actes 9, 7, non. Selon Actes 22, 9, oui. Même livre. Est-ce que ceux qui étaient avec Paul ont vu quelque chose? Dans Actes 9, 7, non, ils n'ont rien vu. Dans le même livre, Actes 22, 9, oui, ils ont vu la lumière. Dans le même livre. On va lire Actes 26, 16, 18. Vous comprenez pourquoi je vous dis, après, il faudra que vous ayez contrôlé pour voir si ce que je vous dis, c'est vraiment vrai, hein? Actes 26, 16, 18. 26, 16, 18. Mais c'est Paul qui raconte son histoire. J'ai répondu, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Jésus lui dit ça où ? Sur le chemin de Damas. Maintenant, vous prenez Actes 9, 6. Actes 9, 6. Comme il était en chemin, il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière qui venait du ciel répandit. Du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui dit « Saül, Saül !» « Pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Où est-ce que Paul a appris ce qu'il devait faire? Sur le chemin de Damas, comme c'est écrit dans Actes 26, 16, 18, ou dans la ville, comme c'est écrit dans Actes 9, 6. Bien, je vais m'arrêter là pour ce soir. Il y en a encore des tas. Si ça vous intéresse, je peux vous les donner. Hein. Je vais m'arrêter là ce soir. Pourquoi est-ce que je vous dis ces choses? Ce n'est pas pour vous troubler. Je sais bien que ça trouble, mais ce n'est pas pour vous troubler. Mais c'est pour vous montrer qu'aucun livre sur terre n'est divin, parfait, infaillible. Aucun. Aucun livre, aucun homme, donc aucun auteur de livre, aucun traducteur de livre. Personne. Il n'y a que Jésus qui soit parfait. Il n'y a que Dieu seul qui est parfait. Lui seul est la parole faite chair. Lui seul, Jésus, est la parole parfaite, créatrice, inspirante. La Bible, c'est un témoignage de Dieu, c'est un témoignage de Jésus-Christ, c'est un témoignage de l'histoire de Dieu et des hommes. Maintenant, Paul nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, 1 Timothée 3, 16. D'accord, toute? De quelle écriture il parlait? Est-ce qu'il savait qu'il y avait tout ce que je viens de vous dire là? Est-ce qu'il avait lu? Est-ce qu'il parlait de ce qu'il écrivait lui? Quand il dit toute écriture est inspirée de Dieu, ou alors peut-être qu'il parlait de l'Ancien Testament, toute l'écriture est inspirée de Dieu, peut-être c'est ça. Peut-être qu'il parlait aussi des écritures apocryphes que l'Église a rejetées, comme le livre d'Enoch, comme le livre des 12 patriarches, comme ces livres-là qui viennent de ressortir depuis la naissance de l'État d'Israël dans les grottes de la mer morte, là-bas, à Qumran. Peut-être de quoi il parlait, de quoi? De l'Apocalypse. Il ne pouvait pas parler de l'Apocalypse. L'Apocalypse n'était pas encore écrite quand il a écrit ça à Timothée. Paul n'a jamais lu l'Apocalypse. Il est mort avant. Toute l'écriture est inspirée. De quelle écriture il parlait? Maintenant, je crois que Dieu permet qu'il y ait ces contradictions apparentes dans les Écritures pour deux raisons. Si vous m'en trouvez une troisième, je prends si elle est intelligente. Mais je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est afin de piéger les orgueilleux. Et la deuxième, c'est afin d'identifier les idolâtres. Ceux qui disent « c'est écrit ». Et qui condamne avec ce « c'est écrit ». Ici, nous ne cherchons pas des éléments pour argumenter contre la Bible. Pas du tout. Pas du tout. C'est grâce à la Bible que nous savons que Jésus-Christ est venu. C'est grâce à la Bible que nous connaissons le message du salut. C'est grâce à la Bible que nous savons toutes les choses que nous savons. D'accord ? Mais arrêtons de dire quelle est la parole de Dieu infaillible. Vous passez pour des idiots quand vous dites cela devant les gens qui savent. Nous voulons juste l'équilibre entre la foi et le fanatisme idolâtre. Alors, comment savoir si la Bible est fiable? Les gens ne peuvent pas vous le prouvez. Personne ne peut vous le prouver. Mais Dieu peut vous en convaincre. Dieu peut vous convaincre que le message de la Bible est vrai. Le malheur, c'est que il y a deux grandes majorités. Il y a une grande majorité de gens qui ne la lisent pas et qui disent qu'elle est bourrée d'erreurs et de contradictions. Et puis il y a une autre majorité de fanatiques qui la lisent mal et qui prétendent qu'elle est parfaite. Il faut que vous ayez vous-même le témoignage de Dieu lui-même dans votre cœur. Et pour cela, il faut la lire avec un cœur ouvert. Et il faut prier le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit vous révèle que le message de la Bible est le message de Dieu pour les humains. Mais pas prier Jésus pour ça. Il faut prier le Père au nom de Jésus. Les chrétiens sont dans la confusion, ils prient n'importe comment, ils s'attendent à recevoir des réponses, ils ne peuvent pas parce qu'ils prient n'importe comment. Jésus nous a enseigné qu'il faut prier le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit vous révélera la vérité. N'est-ce pas la vérité ce que je vous dis là? Bien sûr que c'est la vérité. Et je vais m'arrêter là pour cette étude de ce soir. Vendredi prochain, on se posera la question ou les questions. Mais à part la Bible, est-ce qu'il peut y avoir d'autres témoignages que celui de la Bible? Est-ce qu'il y a d'autres témoignages de Jésus-Christ à part la Bible? Est-ce qu'il y a d'autres témoignages de Dieu à part la Bible? L'archéologie ne rend-elle pas témoignage? La science ne rend-elle pas témoignage à la gloire de Dieu? La nature ne rend-elle pas témoignage à la gloire de Dieu? Les gens qui ont vécu quelque chose en communion avec Dieu ne rendent-ils pas témoignage de la parole de Dieu et de l'existence de Dieu et de la vérité de Dieu? Nous chercherons à connaître s'il y a d'autres témoignages de Jésus-Christ en plus de la Bible. Frères et sœurs, veillez et priez afin de ne pas tomber dans un excès ou dans un autre. Je vous ai toujours enseigné ça, l'équilibre. Soyez guidés par l'esprit de vérité. C'est l'équilibre. Amen.
Amen.
Amen. Ben, je suis content de voir que vous avez bien compris ce soir ce que je vous ai dit. Et on va aller plus loin maintenant Dans ces prochains vendredis, dimanche, nous allons célébrer la résurrection de Jésus. Nous savons que Jésus-Christ est ressuscité parce que la Bible nous le dit et que Dieu a rendu témoignage dans notre cœur par le Saint-Esprit que c'est vrai. Peu importe si les quatre évangiles racontent la résurrection de Jésus de façon contradictoire. Il n'y a pas un des quatre évangiles qui raconte la résurrection de Jésus de la même manière. Pas un. Tous racontent autrement. Est-ce que ça enlève de mon cœur la foi que Jésus-Christ est ressuscité? Pas du tout. Ça ne me gêne pas du tout. Pourquoi? Parce que Dieu a révélé à mon cœur que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et s'il n'est pas ressuscité, alors nous sommes dans notre péché. Et à quoi cela sert-il de se faire baptiser pour les morts s'il n'y a pas de résurrection? Etc., etc., etc. Mais les fanatiques vont vous dire, c'est écrit. Et si ce n'est pas écrit, c'est faux, etc., etc., etc. Et ils deviennent des fanatiques fous, des gens dangereux, des gens intolérants, des gens insupportables, et nous ne voulons pas être de cette race-là. Nous voulons être des gens équilibrés, dirigés par le Saint-Esprit, ne pas tomber ni dans un extrême, ni dans un autre. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on doit être tiède, au contraire. Il n'y a rien de plus bouillant que celui qui dit « Il n'y a qu'une seule perfection dans tout l'univers, c'est Jésus-Christ, notre Dieu, premier-né de toute la création, par qui tout a été fait et par qui tout est maintenu. » Amen. Que Dieu soit béni. Merci Jésus de nous avoir éclairés ce soir et permet que dans les vendredis qui viennent, je puisse apporter encore beaucoup d'autres révélations, beaucoup d'autres choses qui vont faire du bien à mes frères et sœurs qui cherchent vraiment la vérité et qui ne se contentent pas de la bouillie évangélique. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen.